Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti, la journaliste du Monde Sylvie Kaufmann, le professeur de relations internationales Bertrand Badi et l'essayiste Philippe Manière. Au sommaire de ce dimanche 31 mars, Chine-Europe, qui fixe les règles du jeu, et puis le clivage populisme contre progressisme, simple ou basique ? Il y avait cette semaine un contraste étrange entre la beauté paisible des images et l'intensité cruciale des enjeux. Magnifique était en effet la Riviera, la villa Kyrillos à Beaulieu-sur-Mer entre Nice et Monaco, construite sur le modèle d'une demeure de la Grèce antique pour satisfaire la volonté de Xi Jinping de découvrir autre chose que Paris et pour dire aussi la richesse de la civilisation européenne. Cadre harmonieux pour la poignée de main entre le président français et son homologue chinois au doux sourire trompeur, les robes élégantes des premières dames, sans oublier le lendemain à l'Élysée, le dîner officiel où l'on avait reconnu la starlette française de la sitcom Hélène et les garçons, adulée en Chine, sans oublier bien sûr et avant tout la vente mirobolante de 300 avions Airbus. Belles étaient les images, lourd était le contexte d'une Europe qui masquait mal sa fragilité pour résister au rouleau compresseur du géant chinois, lequel venait de convaincre un pays fondateur de l'Union, l'Italie, d'adhérer à son projet d'infrastructure maritime et terrestre des nouvelles routes de la soie, comme l'avaient déjà fait avant elle le Portugal, la Grèce et la Hongrie. Alors certes, il y avait bien eu à Paris l'image inhabituelle du front commun Macron, Merkel, Juncker, accueillant à Troyes un chef d'État étranger. Sauf qu'on n'y voyait là qu'une prise de conscience tardive et embryonnaire, l'ensemble des Européens peinant encore à affirmer une stratégie coordonnée face à Pékin. Alors on avait noté l'humour caustique d'Angela Merkel, ironique sur la façon dont la Chine vantait la dimension win-win de ses routes de la soie, censées être bénéfiques pour les deux continents tant elles allaient favoriser les échanges. Sauf que comme l'avait finement remarqué la chancelière, on voyait bien, très bien, dans cette affaire les intérêts chinois. On percevait mal en revanche où était la réciprocité.
L'Europe est un pôle majeur dans notre monde multipolaire et l'un des partenaires les plus importants de la Chine. C'est pourquoi j'ai choisi l'Europe pour ma première visite à l'étranger en 2019. La Chine accorde une grande importance aux relations sino-européennes. Une Europe unie et prospère et conforme à notre vision d'un monde multipolaire.
Bertrand Badi, on n'arrive pas très bien à comprendre si la Chine préfère en effet une Europe unie, comme vient de l'expliquer à l'instant le président Xi Jinping, ou finalement si elle joue aussi de nos différences.
On peut répondre déjà à cette question en disant que lorsque l'on a un interlocuteur chinois en face de soi, il ne comprend pas. Avant de savoir s'il souhaite ou s'il ne souhaite pas, il ne comprend pas. C'est-à-dire que tout se passe comme si la mondialisation était en train de réveiller, de ressusciter les empires sous des formes renouvelées. Les principaux acteurs de la mondialisation ont une dimension impériale, soit les États-Unis, que ce soit la Chine, même le Brésil et l'Inde ont un passé, une histoire, une identité impériale. L'Europe ne sera impériale que réunie. Et donc... Pour les Chinois, cette fragmentation est de l'ordre de l'incompréhensible. Et quand on ne comprend pas quelque chose, généralement on ne l'aime pas. Mais je pense que derrière cela, il y a quelque chose de paradoxal qui est peut-être à la base de notre malentendu, ou de ce malentendu tel qu'il est décrit. C'est que, finalement, le monde occidental a, d'une certaine manière, inventé la mondialisation. Et maintenant, il en a peur. La Chine, dans un premier temps... a dû subir une mondialisation qu'elle n'a pas inventée, et elle en est le premier bénéficiaire. Alors, ce croisement est quelque chose de tout à fait remarquable, qui fait que la Chine, tranquillement, est en train d'inventer la première pratique de la mondialisation, et que nous, nous sommes toujours dans un train de retard, c'est-à-dire nous voyons comment nous protéger de cette mondialisation en reconstruisant les nations, les souverainetés, le souverainisme, la protection, les barrières, les murs et tout ce qui s'ensuit. C'est peut-être là qu'il faut faire commencer la réflexion et Il y a une phrase quand même de Monsieur le Président de la République qui m'a beaucoup étonné, mais qui a excité mes goûts d'histoire. Il était en Afrique il y a peu de temps, juste avant la visite de Xi Jinping. Il a dit « La France est en Afrique pour contenir la Chine ». Je me suis dit « Tiens, on se croirait à Fashoda ». C'est le modèle de Fashoda. C'est plus la République en marche, c'est la République en marchant, quoi, en quelque sorte. C'est assez spécial, parce que justement, le propre de la mondialisation, ce n'est plus la rivalité de puissance. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Ça veut pas dire... Alors, effectivement, win-win, il y a un côté mythique, slogan d'appel, etc. Mais il y a aussi quelque chose de très fort, c'est-à-dire une tentative de jouer avec ce qui va être la redoutable propriété d'un monde mondialisé, qui est l'interdépendance. Alors, les Chinois sont très forts, parce qu'ils disent, nous, on est pour la souveraineté, mais on est aussi pour l'interdépendance. Alors que, dès qu'on dit interdépendance, les gens sautent sur leur chaise comme... connaissez l'histoire, en criant « souveraineté, souveraineté ». Et ce que les Chinois essayent de conjuguer, et qui me paraît être effectivement conforme aux données de la mondialisation aujourd'hui, nous le détricotons.
Alors, il y a eu l'autre image de cette semaine, Sylvie Kaufmann, Macron, Merkel, Juncker, accueillant ensemble Xi Jinping. Ça a été salué comme une nouveauté, une innovation diplomatique. Vous dites que c'est un bon début ou qu'il est déjà trop tard, comme disait Bertrand Badie? On a toujours un train de retard avec les Chinois.
Il n'est jamais trop tard. C'est tard, en effet. La prise de conscience de l'Union européenne et de la nécessité de s'unir face à la Chine est tardive, mais elle est... Et je reviendrai sur ce qu'a dit Bertrand Badie tout à l'heure. Mais en ce qui concerne cette prise de conscience de l'Europe, elle est importante. Elle s'est faite... En fait, il y a trois événements, je crois, qui caractérisent cette prise de conscience. Il y a l'institution d'un mécanisme de filtrage des investissements dans les secteurs stratégiques en fin d'année dernière, qui a été décidé au niveau européen, c'est-à-dire on ne laisse plus maintenant les puissances étrangères faire des en premier lieu la Chine investir dans n'importe quel secteur de la manière la plus ouverte et la plus libre possible. Il faut faire attention, il y a des secteurs qu'il faut protéger. Et deuxième, un document qui a été publié par la Commission européenne et le service des affaires extérieures, le SEAE, qui est la diplomatie européenne, en fait, et qui propose un plan d'action face à la Chine et qui surtout identifie la Chine comme rival systématique et concurrent stratégique. Donc là, on
changement de
on change de logiciel totalement sur la Chine. On décide que il faut avoir une position claire, stratégique et traiter ce pays comme tel. Voilà. Et troisième temps, c'est ce moment que vous décrivez, qui est donc cette initiative très très symbolique, avec une très grosse valeur symbolique plus qu'une valeur concrète, je dirais. D'Emmanuel Macron, d'inviter la chancelière allemande et le président de la Commission européenne à le rejoindre dans ce qui devait être un entretien bilatéral. Et donc, il transforme ça en entretien euro-chinois. Alors, euro-européen, évidemment, toute l'Europe n'est pas là. Et évidemment, le président Xi Jinping est passé par l'Italie avant, l'Italie qui a décidé de faire cavalier seul en endossant donc cette initiative des routes de la soie. Et c'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Bertrand Badie quand il dit « la Chine ne comprend pas la fragmentation ». Je crois qu'elle la comprend trop bien, justement, parce que les Chinois sont passés maîtres dans l'art de jouer le jeu bilatéral avec les 28 États de l'Union européenne. Et quand il faut regrouper quelques-uns de ces États qui sont vraiment trop petits et qu'il faut essayer d'en faire un groupe dans une région qui est considérée comme plus vulnérable, qui est celle de l'Europe centrale et orientale et des anciens pays communistes, ils savent très bien faire ça en créant un groupe qui s'appelle 16+1, 16 pays européens dont 11 sont membres de l'Union européenne, et la Chine. Et là, on les traite en bloc. Donc, voilà, moi, je crois que les Chinois, ils savent parfaitement ce que c'est que l'Union européenne. Ils ont mis toutes les forces qu'il fallait pour la comprendre. Et Dieu sait que c'est un jeu compliqué, l'Union européenne. Mais je crois qu'ils savent parfaitement s'en servir.
Oui, mais ils trouvent ça irrationnel. Effectivement, ils savent s'en servir. Mais ils trouvent ça incompréhensible. Ouais, ouais. C'est l'incompréhensibilité, c'est pas l'ignorance. Hein.
Aurélie Filippetti, si la Chine s'est jouée de nos différences, de nos divisions, comme on l'a vu cette semaine en effet, avec la visite qui précédait celle en France de Xi Jinping, qui va d'abord voir les Italiens, qui en effet les rallie à son projet de route de la soie, ça donne quelle obligation à l'Europe? Est-ce que ça nous invite à réinterroger aussi ce que peut être la force du projet européen?
Alors, moi, je pense que l'Europe, elle a une double obligation. D'abord, l'obligation de ne pas être naïve et au sens de ne pas être plus royaliste que le roi. L'Europe a joué finalement dans la mondialisation contemporaine, c'est-à-dire au fond une mondialisation des échanges avant tout, hein, des échanges commerciaux, des biens et des services, parce qu'il ne s'agit pas d'une mondialisation des flux de population, mais en tout cas dans la libéralisation de ces du commerce mondial, elle a joué, je dirais, le rôle de l'imbécile utile de tous les autres. Et il y a un moment donné, il faut arrêter ça. C'est-à-dire que les Chinois savent très bien manier l'arme du protectionnisme et utiliser le protectionnisme quand ça les arrange, comme d'ailleurs les Américains aujourd'hui avec Donald Trump, etc. On a beaucoup parlé de la question du changement climatique. Il faut rappeler que la production d'une tonne d'acier chinois produit en termes de CO2 trois fois plus qu'une tonne d'acier européen. Donc à un moment donné, on parle de taxe carbone. Moi et beaucoup d'autres, hein, défendons l'idée d'une taxe carbone européenne aux frontières de l'Union européenne. C'est-à-dire une taxe carbone qui, au fond, permettrait d'intégrer le coût environnemental de ce qui est produit dans les conditions, par exemple, de production en Chine. Et ce qui permettrait aussi de protéger nos emplois et nos industries en Europe. Donc, ça aurait un double effet à la fois social, à la fois sur l'emploi, et puis, donc, une forme de concurrence déloyale, et puis, obligeant aussi, ben, les autres à, avoir des normes environnementales plus strictes que ce qu'ils ont aujourd'hui. Ça, c'est pour l'aspect économique. Ensuite, je dirais que l'Europe doit aussi être fière de ses valeurs et de ses principes, qui sont les principes de la, des libertés publiques. Et notre société et notre idéal européen, il repose sur un certain nombre de principes. Alors c'est vrai que les Européens, et cette fois-ci on a parlé des droits de l'homme, mais je dirais au fond, on est dans un moment où presque on a des complexes, on a le complexe d'être des démocraties. On est dans un moment historique où évidemment les régimes autoritaires ont un peu le vent en poupe, hein, que ce soit les Chinois, les Russes, Poutine, la Turquie, Erdogan, la manière dont Trump, dont un Trump, et même au sein de l'Union européenne, Orban, etc. Mais enfin, soyons fiers de nos valeurs, parce que le peuple chinois, on parle des dirigeants chinois, mais le peuple chinois, il y a une société civile en Chine qui se bat, qui essayent d'émerger. Il y a des artistes formidables qui font un travail qui montre justement l'envers du miracle économique chinois. Alors oui, Xi Jinping a compris que le soft power, comme on dit, c'est une arme aujourd'hui dans les relations internationales. Il développe des instituts Confucius par dizaines, par centaines, partout dans le monde, et notamment en Afrique. Mais heureusement, il y a cette société civile chinoise, il y a ces artistes, il y a ces gens qui se battent pour faire émerger des libertés aussi en Chine. Et c'est sur ça qu'on peut avoir confiance, et sur eux qu'on peut avoir confiance à l'avenir, finalement.
Vous parliez en démarrage de votre propos d'une certaine frilosité des Européens, par exemple sur ce tout nouveau dispositif dont vous parliez aussi tout à l'heure, Sylvie Kaufmann, de contrôle des investissements étrangers. C'est vrai qu'il existe désormais ce dispositif, mais pour l'instant il est non contraignant, je crois, alors même qu'il y a des dossiers déjà très concrets, Philippe Manière. Si on prend par exemple le cas très précis, très concret, très factuel de l'entreprise Huawei, donc ce géant de la téléphonie mobile, aujourd'hui il y a l'enjeu d'installer ou pas par Huawei la 5G en Europe, avec un certain nombre de questions qui se posent. Sur ce genre de dossier, que doit répondre? Comment doit s'unir l'Europe? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle ne fait pas?
Elle ne fait pas grand-chose, mais si elle ne fait pas grand-chose, c'est aussi beaucoup pour des raisons à la fois techniques et économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les spécialistes vous disent que si on veut de la 5G, il faut passer par Huawei. Il n'y a qu'eux qui ont la technologie et la capacité de le déployer. Il reste très peu de concurrents dans ce domaine. Et c'est un cas typique où la puissance de l'Europe s'est considérablement érodée à une vitesse que personne n'aurait soupçonné. Il y a encore seulement 15 ans, rappelez-vous à quel point on disait que l'Europe avait eu le génie du standard unique GSM qui faisait qu'on dominait en quelque sorte le monde des télécoms. On était loin devant les États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes dans beaucoup d'endroits de l'Europe en termes d'équipement, de capacité de transmettre des données derrière les États-Unis, hein, ce qui est franchement quelque chose qui était peu prévisible. Et nous sommes largement dans la main de ces Chinois. Alors l'Europe a-t-elle été naïve? Sans doute. Les Chinois surtout ont été très malins, c'est-à-dire qu'ils ont très très vite, ils se sont très très vite équipés de capacités de produire et d'exporter, des voyant qu'il y avait ce besoin. Et encore une fois, on a été collectivement. C'est un peu inutile de pleurer sur le lait versé, donc je vous propose qu'on n'y passe pas toute l'émission, mais il faut acter le fait que depuis 25 ans, en acceptant l'entrée dans l'OMC, en acceptant le statut d'économie de marché, en ouvrant ses frontières sans beaucoup de limites, les Européens, les Occidentaux en général, ont été très naïfs sur ces sujets-là. Alors, pas complètement seulement par bêtise, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi beaucoup de bénéfices. N'oublions pas les bénéfices, hein, les bénéfices de la mondialisation. On est toujours prompt les uns et les autres à dénoncer ces méfaits. Il y a aussi d'immenses bénéfices, c'est-à-dire que, pour faire simple, un ménage occidental moyen, aujourd'hui, pour acheter des vêtements, des chaussures, paye beaucoup moins cher qu'il y a seulement 25 ou 30 ans. C'est un bénéfice très considérable. Comme ça ne se voit pas, parce que c'est juste du pouvoir d'achat qui arrive supplémentaire, qui arrive de manière incrémentale sur des sujets qui sont pas, qui font pas la une des journaux, on n'en parle pas, mais la mondialisation, l'ouverture des économies occidentales aux importations d'Orient et en particulier de Chine, nous a apporté des bénéfices très considérables. Cependant, elle nous a également apporté des inconvénients en termes de dépendance. Et cette dépendance, elle n'est probablement pas prête de s'arrêter pour une raison sur laquelle je pense qu'il est utile d'insister, c'est que nous n'avons plus les moyens. C'est-à-dire que, par exemple, on parle de l'Afrique. Bon, très bien, faut-il... Enfin, c'est un peu bizarre, me semble-t-il, de dire c'est bien dommage que la France ne rayonne plus en Afrique l'après-midi, après avoir dit le matin que le joli temps de la France-Afrique était particulièrement répugnant. Donc, faut savoir ce qu'on veut. Faut-il rayonner en Afrique? Comment faut-il y rayonner? Je n'en sais rien, mais on peut pas dire qu'on déteste la France-Afrique et l'esprit colonial quand même qui a emprunt si fortement les relations entre l'Europe et la France en particulier et l'Afrique d'une part, et que d'autre part, il faudrait une influence importante en Afrique des Européens. Toujours est-il qu'aujourd'hui, l'un des leviers fondamentaux de l'influence de la Chine sur l'Afrique, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils vous vendent des équipements et ils vous font les financements. Personne ne peut faire ça à part les Chinois. Alors évidemment, c'est un coup de billard à deux bandes, c'est-à-dire que dans un premier temps, c'est irrésistible. Les Chinois arrivent, ils vous proposent des équipements, vous êtes africain, les équipements sont en quelque sorte prépayés puisqu'ils sont financés. Évidemment, quelques années plus tard, vous pouvez vous trouver dans la situation d'avoir du mal à rembourser et en tout état de cause, vous vous trouvez dans la main de celui qui vous a financé vos équipements. Donc tout ça n'est pas désintéressé de la part des Chinois, cela va de soi, mais il faut tout de même ne pas oublier que à force d'être impécunieuse, l'Europe et en particulier la France en Europe ne sont plus dans la situation de pouvoir offrir au monde ce que ceux qui, symétriquement, ont accumulé des richesses sont susceptibles d'offrir. On ne peut plus aujourd'hui préfinancer des équipements comme on le faisait il y a 25 ou 30 ans. Les Chinois le font quasiment à jet continu.
Alors Bertrand Maddy, sur la question de l'influence française perdue en Afrique, je vous entendais, vous voyez tiquer à ce que disait Philippe Magnard à l'instant.
Oh, tiquer, non. Bon, ça dépend comment on écrit tiquer, d'ailleurs. Mais l'Afrique... Et le médiateur dans cette affaire, c'est tout à fait extraordinaire. Quand Aurélie Filippetti disait « nous avons des valeurs, démocratie, liberté, la Chine pas, etc. », demandez à un Africain en qui, a priori, il aurait plus confiance pour assurer son développement et sa libération, et son émancipation entre l'ancienne puissance coloniale et la Chine.
Les Chinois n'ont pas de passif, en quelque sorte.
Ben exactement. Ça, oui. Et non seulement ils n'ont pas de passif, mais ils aiment, et c'est très tactique, ils aiment rappeler que nous, on était à côté de vous dans la position des dominés et des humiliés. Ils savent rappeler ce qu'était la guerre de l'opium en matière de manquement grave des puissances occidentales à l'égard des libertés et des droits.
Et il y a aussi ce discours du président chinois de dire « nous apportons de l'argent et du business, mais nous ne nous mêlons jamais de politique ».
Là, je crois que vous appuyez exactement où il faut. C'est-à-dire qu'il y a un modèle chinois qui est en train de s'accomplir et que nous ne pouvons pas voir parce que notre cerveau n'est pas fabriqué pour le comprendre. C'est que notre histoire est une histoire de confusion du politique et de l'économique. C'est-à-dire, on voulait en même temps étendre notre économie, mais étendre aussi notre modèle. Nous voulions universaliser notre modèle. Et je me rappelle avoir discuté avec un collègue chinois qui dit « la différence entre toi et moi, c'est que toi tu crois en Dieu, moi pas. Et donc je n'ai absolument pas envie d'étendre le modèle chinois. Je fais du business, je vais me servir parce que j'ai des besoins énormes et bien sûr la Chine n'a absolument rien de philanthropique, n'est-ce pas ? Je vais me servir en Afrique, mais peu m'importe, d'une part, la nature des régimes politiques qui y figurent. Je ne cherche pas à clientéliser, nous ne cherchons pas à clientéliser les régimes africains. Et quelque chose de plus fort encore, il y a plein de conflits en Afrique. C'est pas notre problème. Ouais. C'est pas, nous n'en mêlons pas. Nous sommes toujours dans un modèle où tout doit se faire en même temps, c'est-à-dire l'esprit de Fashoda, n'est-ce pas? Et puis la Chine dans un modèle de découplage entre le politique et l'économie.
Je vous arrête là parce que est-ce que cela va de soi à ce point, Aurélie Filippetti, que de dire que la Chine n'a qu'un projet économique ou n'apporte qu'un projet économique? La transmission des valeurs. On dit aussi beaucoup, une chercheuse que vous devez connaître qui s'appelle Alice Ekman, chercheuse spécialiste de la Chine au CNRS, explique qu'il faut pas se tromper. La Chine a en réalité vraiment une ambition normative de devenir la nouvelle hyperpuissance normative.
Ah, mais le nationalisme chinois est une réalité. Et c'est une réalité qui est à la fois développée, accentuée en Chine, à l'intérieur des frontières de la Chine, pour faire taire les minorités et les contestataires au nom justement de la grandeur de l'Empire. Et c'est une réalité à l'extérieur. C'est-à-dire que ce qu'est en train de faire la Chine aujourd'hui, Xi Jinping, c'est vraiment d'étendre son influence. Et quand je parlais de soft power, c'est vraiment un outil stratégique. Ce que je déplore, je ne dis pas que l'Union européenne a été exemplaire, bien au contraire, je dis quand l'Union européenne renonce finalement à ce qui fait son identité profonde, c'est là qu'en fait elle est fragile. Et je donne un exemple très concret, les étudiants africains aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont les bienvenus en France? Mais ils ont les pires complications. Maintenant, on veut même augmenter leurs frais d'inscription à l'université. Ils ont les pires complications pour venir étudier en France. Alors que, évidemment, jusqu'à présent, ils avaient naturellement envie de venir étudier en France, ou en Europe, en tout cas. Et que ça, en formant des jeunes générations, etc., c'est comme ça qu'on peut étendre l'influence européenne. Aujourd'hui, s'ils ne se sentent plus les bienvenus et que, en revanche, on les accueille à bras ouverts dans les universités chinoise, parce que avec derrière l'arrière-pensée que évidemment on va leur apprendre le mandarin, et je dis bien le mandarin et pas la trentaine de langues minoritaires en Chine, c'est au nom justement d'une vision et d'un souci extrêmement national. On ne traite pas les Bretons en France comme on traite les Ouïghours en Chine par exemple, mais voilà, en tout cas c'est au nom d'une vision extrêmement nationaliste et d'un projet de puissance. Il y a aujourd'hui, évidemment, une volonté de puissance politique de la Chine qui s'exerce à la fois vis-à-vis de sa propre population et sur l'échelle internationale.
Alors sur ce projet d'hyperpuissance chinoise qui n'est pas toujours présenté ou assumé comme tel, c'est vrai que si l'on fait le bilan de la période en ce qui concerne les investissements chinois en Europe, il y a maintenant en effet ces projets d'investissement dans les ports de Trieste et de Gênes, et donc avec ce ralliement de l'Italie au projet des routes de la soie. Il y a ce que vous avez fort bien analysé dans Le Monde cette semaine, Sylvie Kaufmann, à savoir, et vous en avez parlé tout à l'heure, le format 16+1, c'est-à-dire la façon dont Pékin est en train de travailler au corps ces pays d'Europe centrale et orientale. Il reste quel espace finalement encore aujourd'hui pour l'Europe, pour se ressaisir ou pour avoir une réponse vaguement coordonnée à ce projet déjà tellement avancé de l'hyperpuissance chinoise?
Il reste l'espace d'essayer de s'affirmer comme puissance normative, justement. Alors, quand on dit la mondialisation n'est pas une rivalité de grande puissance, il y a deux choses. Il y a la mondialisation économique dont a effectivement beaucoup bénéficié la Chine, et nous aussi, à une certaine époque. Mais cette mondialisation qui a amené la Chine sur la voie de la prospérité aboutit finalement à une logique de grande puissance. Et on est en plein maintenant dans la compétition des grandes puissances, dans les rivalités de grandes puissances dans le monde. Et je dois dire qu'on rend rarement crédit à Donald Trump de quoi que ce soit, en général à juste titre, mais il y a une chose dont on peut lui rendre crédit, c'est d'avoir mis le doigt sur ce fait chinois, qui est que, contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps, le développement économique et le chemin de la prospérité ne mènent pas automatiquement à la démocratisation et au respect des libertés publiques. Donc on a effectivement l'émergence d'un vrai modèle chinois, qui est ce modèle de capitalisme autoritaire, et qui ne se comporte pas comme une puissance bienveillante à l'étranger. Et d'ailleurs, beaucoup de pays africains et dans le sud-est asiatique s'en détournent. La Malaisie, il y a des pays dans le sud de l'Afrique aussi qui se rendent compte qu'il y a beaucoup trop de conditions contraignantes attachées aux investissements chinois et qui commencent à prendre leur distance. Ça n'est pas Je suis d'accord avec Aurélie Filippetti là-dessus. Ça n'est pas une puissance bienveillante, la Chine, même si elle cherche d'abord à avancer ses pions économiques, c'est vrai. Alors face à ça, l'Europe doit prendre, enfin c'est ce qu'elle est en train de faire, de prendre conscience du fait qu'elle aussi, elle doit se comporter, prendre sa place dans cette rivalité des grandes puissances. Le problème, c'est que la Chine est un État extrêmement centralisé, que les États-Unis sont un État fédéral, et l'Europe est un ovni institutionnel qui a beaucoup de mal à organiser son unité, même si c'est un ovni extrêmement intéressant et passionnant. Mais voilà, donc on en est là. L'unité, il y a une prise de conscience au sommet à Bruxelles et dans certaines capitales, Paris et Berlin, par exemple. Berlin a mis beaucoup de temps à le faire, mais ils sont en train de le faire, les Allemands. Mais il y a d'autres pays qui jouent un jeu à part. Alors, sur l'influence chinoise en Europe centrale, il y a cette volonté d'influence. Après, toutes les promesses d'investissement ne sont pas tenues. On voit bien que sur le plan des infrastructures, par exemple, il y a des choses qui ont été promises, qui ont beaucoup attiré des pays d'Europe centrale qui ont des vrais besoins en infrastructures, de transport, de communication, etc. Et finalement, au bout du compte, ça n'arrive pas. Les promesses ne sont pas toujours tenues par les Chinois. C'est plus compliqué. Donc, on n'est pas face à une invasion d'investissement chinois. Ça, c'est pas vrai. Mais c'est vraiment le moment de prendre conscience et de s'organiser.
Vous parliez d'une certaine lucidité américaine, vous saluiez presque, si j'ai bien entendu, une sorte de lucidité trumpienne sur la question chinoise. Souvent, je reviens à ce sujet-là avec vous, Philippe Manière, et toujours à mon affaire Huawei. Est-ce que on a tort de ne pas considérer, nous Européens, que ces investissements pour la 5G en Europe, c'est vraiment le cheval de Troie de Pékin pour infiltrer, espionner tranquillement nos réseaux?
Non, mais enfin, moi, je suis complètement d'accord avec Sylvie sur le fait que Trump a mis le doigt sur quelque chose que tout le monde avait plus ou moins en tête, mais que personne n'osait exprimer, c'est-à-dire que le rapport que nous avions avec la Chine était déséquilibré, déguisé derrière l'égalité, l'ouverture internationale. Il y avait l'établissement d'un rapport de force trop favorable aux Chinois, excessivement favorable aux Chinois. Trump a eu le mérite de dire tout fort ce que tout le monde pensait tout bas, ce qui a déclenché tout de même quelque chose. Et aujourd'hui, il y a un bras de fer, objectivement, entre la Chine et les États-Unis. Je sais pas du tout comment il finira, mais ça nous met dans un autre univers. Si on se réfère simplement à l'univers dans lequel on était il y a 18 mois, où en gros l'Occident se rendait compte progressivement qu'il s'était fait un peu avoir par la Chine, mais personne n'osait trop rien dire au nom des valeurs qui nous avaient amené à ouvrir les portes et au nom de la puissance chinoise à laquelle on n'osait pas résister. Donc on est quand même rentré dans un univers différent, et je crois que c'est bon pour l'Occident et pas seulement pour les États-Unis. Alors maintenant, faut-il être naïf? La réponse était évidemment non. Peut-on faire autrement que de laisser Huawei déployer la 5G? Je ne sais pas.
Les États-Unis, de Trump refusent.
Ils refusent.
Et essayent d'inviter leurs partenaires à faire de même.
Oui, mais ils refusent tout en sachant. Enfin, le prix à payer est très élevé. C'est encore une fois, on s'est mis dans cette situation très singulière où seule une firme chinoise est en situation de livrer des promesses qu'on a faites au peuple, en quelque sorte. C'est-à-dire.
Il y a des alternatives européennes.
Il y en a, mais elles sont moins avancées.
Elles sont beaucoup moins avancées.
Nokia. Moi, personnellement, ça ne me gênerait pas du tout qu'on prenne 20 ans de retard sur le déploiement de je ne sais plus quel raffinement dont on attend monts et merveilles demain sur Internet, avec du très haut débit, la capacité de télécharger des vidéos. En fait, tout ça me semble absolument dépourvu de tout intérêt, objectivement. Et même probablement une régression supplémentaire sur la pente épouvantable sur laquelle on est engagé depuis 20 ans, où en gros, on ne lit plus parce qu'on regarde des images, ce que je trouve dévastateur.
Mais ça, c'est
ma vision du monde. La demande des peuples, c'est donnez-moi plus. Je veux pouvoir uploader, downloader, etc. Enfin, j'exagère quand je dis la vision des peuples, mais le consensus général, c'est que on rend service au public en rendant tout ça encore plus efficace, encore plus puissant. Alors, si on veut vraiment livrer ce qui a été promis dans cette matière, alors oui, il me semble aujourd'hui, je ne suis pas un spécialiste, mais ce que je comprends du dossier, c'est que aujourd'hui, sans Huawei, on ne peut pas le faire aussi vite qu'on l'a promis. Encore une fois, on peut tout à fait décider qu'on le fait plus lentement. Mais c'est compliqué, même en termes de politique intérieure de tous les pays d'Occident. Maintenant, c'est là où on s'est mis un peu dans la gueule du loup. Je voudrais revenir juste un instant sur la puissance qu'a acquise la Chine. On le disait à l'instant sur les technologies. N'oublions pas qu'il y a encore 20 ans, on croyait collectivement tous plus ou moins qu'on allait continuer à vendre des avions et des centrales nucléaires aux Chinois et qu'ils allaient, eux, nous vendre des gamelles qui allaient évidemment être de plus en plus raffinées dans le temps,
France vient de vendre
toujours
Airbus.
Des gamelles. Oui, mais ces Airbus seront en partie fabriqués en Chine. Je n'y pour ni contre.
C'est simplement, transfert de technologie.
On a été très naïfs, y compris en acceptant des constructions sur place sur des technologies assez avancées type ferroviaire qui aujourd'hui nous font concurrence et tout le monde sait qu'elles ont été pillées par les Chinois en très grande partie.
Et nucléaire.
Nucléaire aussi. Donc certainement on a été naïf. Encore une fois, aujourd'hui on se retrouve avec des concurrents qui font la même chose que nous, parfois mieux, souvent moins cher. On n'est pas dans la situation qu'on espérait. Et puis j'y reviens, c'est très important, la quantité d'argent accumulée par la Chine. Pas en volant seulement, hein, c'est-à-dire qu'en commerçant avec nous, elle a accumulé des excédents très considérables qui donnent. Alors attention, parce qu'il y a de la dette en face. Le pouvoir chinois est aussi, danse aussi sur un volcan, parce qu'il y a une dette considérable, en particulier dans l'immobilier, qui peut mal tourner. Toujours dit qu'aujourd'hui, les réserves chinoises sont énormes et que ça permet aux Chinois de faire des promesses, de développer face à nous des entreprises publiques qui ne jouent pas le jeu. Enfin, encore une fois, l'argent donne du pouvoir. Mmh. C'est pour ça qu'il ne faut pas être naïf en Europe quand on dit c'est pas grave, nous on distribue, on redistribue, on est heureux, on n'a pas besoin d'excédents. Oui, mais quand on a des excédents, on a le pouvoir.
Je me souviens de cette phrase de la patronne du FMI, Christine Lagarde, qui avait dit un jour, je crois, avec la Chine, ce n'est jamais un repas gratuit. Est-ce que c'est de cela dont il faut bien se souvenir aujourd'hui, Bertrand Badi et Aurélie Philippe?
Écoutez, c'est formidable comme on enfonce les portes ouvertes. Qu'est-ce que c'est qu'un repas gratuit sur la scène internationale? Vous parliez tout à l'heure de puissance bienveillante, que la Chine n'est pas une puissance bienveillante. J'aimerais bien...
Il n'y en a pas.
Ben voilà,
par définition, ça n'existe pas.
Alors, il y a effectivement les États-Unis qui, par ses intellectuels, se sont autoproclamés benign leaders, c'est-à-dire puissance bienveillante. Mais il faut avoir une sacrée dose de messianisme pour considérer que sa puissance et sa force, c'est une bénédiction divine pour tout le monde. Hein. Alors, la vraie question, ici, elle me paraît double. C'est peut-on arrêter aujourd'hui la puissance comme on l'a arrêté hier? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire face à la Chine une guerre de la Ligue d'Augsbourg, c'est-à-dire coaliser tous ceux qui sont à l'extérieur et qui sont menacés et qui rééquilibreraient la Chine? C'est plus comme ça que ça se passe maintenant. Et j'ajoute quand même quelque chose de très important. Quand on parle d'hégémonie, vous parliez d'hyperpuissance. Vous savez, ce terme, il ne faut pas trop l'utiliser, parce que quand on commence à le sortir, il est immédiatement démenti. Quand il a été utilisé à propos des États-Unis, le lendemain, les États-Unis ont commencé leur glissade vers le bas.
Vous irez expliquer ça à Hubert Védrine.
Peu importe. Mais en revanche, une chose est certaine, c'est que la propagande chinoise développe tout un tas d'argumentaires pour contrer cette idée en disant « mais nous, on a eu à souffrir de l'hégémonie, donc on ne veut pas, etc. » C'est pas très crédible, ça. En revanche, il y a quelque chose qui est très crédible dans le discours chinois et auquel il faut faire attention. C'est quand ils disent « écoutez, nous, vous a observé pendant 150 ans, on a vu que l'hégémonie, c'était pour vous le contraire du loto. C'est-à-dire que ça coûtait très cher et ça rapportait très peu. Vous vous êtes ruiné à être hégémon, nous... On n'a pas besoin, on n'a pas envie, et ça contredirait justement notre grand projet économique. Bon, ça, c'est pas quelque chose de nécessairement rassurant, mais c'est quelque chose qui doit nous mettre sur la voie de l'imagination d'un modèle nouveau. Ce qui me gêne, c'est toujours cette confusion qu'on fait, comme si c'était le nouveau Louis XIV, Xi Jinping le nouveau Louis XIV, ou le nouveau Napoléon, ou le nouveau je ne sais quoi. Il faut savoir repenser tout cela dans un contexte qui n'a absolument rien à voir avec ce que l'histoire nous a livré. Je vous sens impatiente, donc je vous laisse.
Impatiente de passer à notre deuxième partie. On va maintenant venir à la vie des idées. Cette semaine, plus que jamais, deux mots s'opposaient dans le débat public. Progressisme contre populisme. Ce clivage est-il pertinent, juste, tronqué ou insuffisant? C'est la deuxième partie de l'Esprit public.
France Culture, l'Esprit public, Émilie Aubry.
Un certain nombre de forces populistes montent en Europe et nous allons les combattre. Nous voulons être une force progressiste, déterminée, centrale, avait assuré mardi la désormais ex-ministre Nathalie Loiseau en présentant la liste de La République En Marche pour les Européennes. Composée de personnalités venues de différents horizons, proches de François Bayrou ou ex-Europe Écologie Les Verts comme Pascal Canfin. Était-ce donc cette fois réellement le coup d'envoi de la bataille annoncée de longue date entre populistes et progressistes? Et ce clivage était-il pleinement satisfaisant? Ceux qui le défendaient, mordicus, prenaient souvent l'exemple du vote du Parlement européen contre Viktor Orban pour démontrer que la ligne de partage en Europe passait de moins en moins entre la droite et la gauche et de plus en plus entre populistes et pro-européens ou entre populistes et progressistes pour reprendre la terminologie macronienne. Dans ce raisonnement, il y avait l'idée qu'il fallait arrêter de finasser pour regarder les véritables enjeux colossaux qui étaient devant nous, la survie de l'état de droit, de l'Europe et de ses valeurs, dans un monde où la puissance basculait de l'Occident vers l'Orient, des démocraties libérales vers des pouvoirs autocratiques.
Un raisonnement qui laissait sur sa faim tous ceux qui ne se résignaient pas à voir disparaître le clivage droite-gauche et repoussaient l'affrontement bipolaire progressiste-populiste à l'image de la nouvelle tête de liste du Parti Socialiste, Raphaël Glucksmann, qui accusait Emmanuel Macron, je cite, « d'avoir volé la notion de progressisme à une gauche moribonde et de l'avoir dépouillée de toute substance sociale ». Il y avait aussi ceux à droite, comme la tête de liste LR François-Xavier Bellamy, qui refusaient le clivage macronien, défendant une voie qui n'était ni le progressisme ni le populisme, mais le retour à des valeurs comme la frontière, la famille, le territoire. Une droite qui parlait de gestion plus rigoureuse des comptes publics et de conservatisme libéral. Bref, la bataille des mots faisait rage. Parce qu'elle n'était pas affaire que de mots, que derrière se jouait aussi la recomposition d'un paysage politique bouleversé, voire le point de bascule d'un monde et d'une époque.
Moi, mon objectif, c'est quoi ? C'est de dire, eh bien, en France, il doit y avoir une social-démocratie qui existe. Il ne peut pas y avoir simplement un match entre les nationalistes et Macron, Marine Le Pen et Macron, les nationaux populistes et Macron. Sinon, la politique est prise en otage. Il doit y avoir une gauche en France.
Il y a quelque chose qui fait système, si je peux me permettre l'expression, entre les populistes et les progressistes, qui est qu'ils s'accordent chacun à considérer que leurs adversaires politiques ne sont pas seulement des concurrents qui partagent et qui proposent une vision différente de la leur, mais des ennemis qu'il faut combattre. Et c'est cette perspective-là, au fond, qui fait que dans ces deux camps se joue une politique de la peur.
En France, les progressistes, ils sont dans la majorité présidentielle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des progressistes ailleurs, mais la majorité présidentielle est le seul camp qui est homogènement progressiste.
Voilà, nous venons d'entendre Raphaël Glucksmann, François-Xavier Bellamy et Ismaël Emelien, l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron qui a publié cette semaine ce livre « Le progrès ne tombe pas du ciel » avec un co-auteur, David Amiel, qui se veut un manifeste dont l'objectif est justement, Aurélie Filippetti, de réunir les progressistes, à commencer, je cite, par ceux qui s'ignorent. Au fond, ce livre est une tentative de redéfinir le socle idéologique du macronisme. Est-ce qu'on est dans ce moment-là où chaque camp revisite, réinterroge son socle idéologique?
Moi, ce qui m'inquiète avec cette opposition binaire entre progressiste et populiste, c'est que si on essaye de transformer la politique en conflit entre le bien et le mal, à un moment donné, on oublie, mais volontairement bien sûr, les conflits de classe, les conflits d'intérêts économiques qui sont au cœur de toute société. Les intérêts des uns et des autres, des groupes sociaux, les intérêts des employés et des employeurs ne sont pas les mêmes et c'est normal et c'est absolument naturel. Donc ça, on le passe totalement sous silence. On essaye de gommer ces conflits de classe, ces conflits d'intérêts au nom d'une vision pseudo-morale du bien contre le mal. Et c'est la négation de la politique. C'est le degré zéro de la politique. Moi, ce qui me frappe dans le discours et dans le livre là de Emelien et Amiel, c'est la vacuité, au fond, de leur pensée politique. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont tellement imprégnés de l'idéologie, d'une idéologie qu'ils ne comprennent même pas qu'ils sont eux-mêmes agis par cette idéologie, qu'elle pense à travers eux. Ils pensent être du côté du bien et incarner le bien. Et donc, forcément, tous ceux qui vont dire, mais enfin, la politique européenne, par exemple, on peut pas dire qu'aujourd'hui, la politique européenne menée par l'Union européenne soit une politique progressiste. Elle n'est pas progressiste en termes de droits sociaux, elle n'est pas progressiste en termes de droits des travailleurs, elle n'est pas vraiment progressiste non plus sur les questions environnementales, donc elle n'est pas progressiste cette politique aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ça veut dire au fond pour par exemple les classes populaires, pour les gens qui sont au chômage aujourd'hui, que cette alternative, soit vous votez pour nous, et pour cette politique très libérale qui vous met dans des situations où on vous dit, au fond, si vous êtes pauvre, c'est que vous l'avez mérité. Ou alors, finalement, vous êtes du côté du mal, vous êtes du côté du diable et vous êtes du côté des populistes. Je trouve que c'est vraiment une réduction à zéro de la politique et c'est la négation de dizaines d'années de combats pour les mouvements sociaux, pour les progrès, justement pour les travailleurs, pour les femmes, etc., pour les minorités. C'est la négation de tout ça. On vous dit, voilà, vous avez le choix, c'est le pistolet sur la tempe, c'est le bien ou le mal. Donc ça veut dire, c'est zéro politique.
Est-ce que c'est uniquement la responsabilité d'Emmanuel Macron, Sylvie Kaufmann, d'avoir, notamment pour ces européennes, avec ces enjeux européens, d'avoir bipolarisé le débat entre progressisme et populisme? J'ai relu un article du politologue Zaki Laïdi qui disait que factuellement, cette opposition binaire, elle précède le macronisme, que de fait, le PPE et la social-démocratie n'ont cessé de régresser au fil des scrutins au Parlement européen. Et c'est lui qui citait ce qui s'est passé autour de Viktor Orban pour expliquer qu'en effet, depuis un moment déjà, en tout cas au niveau européen, le clivage transcende ces deux grandes familles politiques de droite et de gauche.
Oui, c'est-à-dire, disons que Emmanuel Macron l'a utilisé, l'a exploité ce clivage. C'est lui qui l'a vulgarisé, si je puis dire, ou médiatisé le plus. C'est vrai qu'il existait depuis quelques années. D'une certaine manière, l'élection d'Emmanuel Macron en est le fruit. Maintenant, il l'a utilisé. Il s'en écarte un petit peu maintenant pendant la campagne électorale, tout en continuant à l'utiliser. Donc, je crois qu'il est le signe d'une très grande confusion idéologique des deux côtés. De la même manière, quand il disait ni droite ni gauche, ou ni gauche ni droite, je ne sais pas. D'accord, mais
ni
quoi
gauche, ni gauche.
Mais quoi? Donc, progressisme, d'accord. Qu'est-ce que c'est que le progressisme? On n'y est toujours pas. Qu'est-ce que c'est que le populisme? On n'y est pas non plus, parce qu'il y a plein de sortes de populisme. Comme dit Marc Lazare, le populisme, il est à la fois singulier et pluriel. Donc, on a le populisme ethnocentrique, le national-populisme, le populisme identitaire, le populisme protestataire, notre ami Dominique Reynier dit le populisme patrimonial. Donc, voilà, il y a beaucoup de variantes du populisme. Il reste que le populisme est une force actuellement très importante.
Et qu'il y a comme un vrai clivage qui s'appelle la démocratie libérale contre la démocratie illibérale.
Il y a aussi plusieurs, si vous voulez, le progressisme, ça recouvre aussi plusieurs variantes. J'ai remarqué que dans une interview au Figaro, Nathalie Loiseau dit maintenant il y a aussi les assis, ceux qui sont assis, c'est-à-dire la commission, enfin ceux qui dirigent l'Union, ceux qui sont au pouvoir actuellement dans l'Union européenne, c'est-à-dire essentiellement la démocratie chrétienne, la CDU. C'est vrai que le président de la commission, il fait partie de cette catégorie politique, Juncker, le président du Conseil européen Tusk, c'est aussi le centre-droite, la démocratie chrétienne, c'est enfin ce courant-là. Et finalement, le clivage, on voit qu'il est aussi là, entre Macron, et qui prône un bouclier social dans sa lettre aux citoyens d'Europe, cet appel à la renaissance européenne. Il y a une proposition qui est par essence progressiste, celle d'un bouclier social et d'un salaire minimum européen. Qui est contre tout de suite? Annegret Kramp-Karrenbauer, la chef de la CDU allemande, qui n'en veut pas. Elle n'est pas populiste. C'est la droite, ce qu'on appelle libérale en France, classique. Alors, il y a aussi cette confusion sémantique. Ça fait aux États-Unis, par exemple, ça fait un moment qu'on parle des progressistes parce que la gauche, qui en anglais se dit liberal, c'est devenu péjoratif aussi, de la même manière que on essaye d'utiliser à l'époque d'Obama surtout ce terme de progressiste. Voilà, tout ça, je trouve, relève d'une confusion idéologique assez impressionnante qui fait son chemin. On avance un petit peu, mais on n'y est pas encore.
On avance, hein. En effet, on pourrait parler de printemps des idées ou de printemps des ismes. En tout cas, en France, en effet, chacun y va de son livre pour redéfinir son socle idéologique. Philippe Manière, il y a bien sûr, on l'a entendu d'ailleurs, le livre de François-Xavier Bellamy, sorti il y a maintenant déjà quelques semaines, Demeure, qui justement faisait le procès du progressisme version Macron, en dénonçant cette illusion absurde, je le cite, qui a détruit l'idée de progrès en décrivant le changement comme absolument nécessaire par principe. Il y a aussi son ami en politique, Bruno Retailleau, qui vient de publier un livre qui s'appelle Refondation, qui lui aussi essaye de redéfinir le corpus idéologique d'une droite. Est-ce qu'on est dans ce moment-là, justement, de redéfinition? Est-ce que, comme dit Sylvie Kaufmann, on avance?
Non, il y a quelque chose qui se passe, je crois, en France et qui est intéressant et qu'il faut, je crois, éclairer à la lumière de ce qui s'est passé aux États-Unis. On parlait tout à l'heure de Trump dans la première partie de l'émission. Beaucoup d'Européens n'ont pas compris que Trump ne pouvait pas arriver au pouvoir s'il n'était soutenu que par les perdants de la mondialisation, les frustrés de l'Ohio ou du Wisconsin, qu'il lui fallait aussi des voix de gens éveillés, éduqués, qui n'étaient pas particulièrement perdants de la mondialisation et qui sont venus adjoindre leur désir à celui des masses frustrées par la mondialisation. Qu'est-ce qui les motivait, ces gens-là? C'était l'idée que la tradition perdait sans arrêt et qu'il y avait un camp autoproclamé, camp du progrès, qui prenait des décisions, qui faisait advenir des changements qui leur étaient insupportables au nom de la tradition éternelle. Ces changements étant généralement suggérés et voulus et mis en œuvre au nom des minorités. Les minorités étant d'ailleurs une conception assez particulière puisque ça inclut aussi les femmes. Mais pour faire simple, vous avez aux États-Unis une espèce de force de réaction qui a porté Trump au pouvoir, qui était nourri en grande partie par l'idée que le progressisme américain des 25 dernières années, qui était celui qui avait, encore une fois, je ne porte pas de jugement sur le fond, mais fait advenir les droits attachés à l'avortement, mais aussi les droits beaucoup des minorités, la discrimination positive, etc. Tout ça étant souvent porté par le système judiciaire américain, la Cour suprême et les Circuit Court of Appeals, tout ce dispositif-là qui faisait en quelque sorte que aujourd'hui le progrès, c'est le droit des transgenres, c'est le droit des noirs, c'est le droit des femmes, tout ça, au bout d'un moment, a semblé, pardon de le dire comme ça, mais c'est comme ça que c'est perçu, j'en suis personnellement convaincu, comme injuste, injuste et orthogonal à une espèce de droit naturel, d'état naturel des choses. Si vous voulez, il y a plein de gens qui se sont sentis à la fois blessés dans leur état, alors si on voulait les critiquer, on dirait d'hommes blancs dominants, bon, mais aussi blessés dans leurs convictions qu'ils considèrent aussi valides que celles des autres, et après tout, je ne crois pas qu'on puisse leur donner tort comme ça sur un coin de table, qui sont que les choses ont tout de même une forme d'éternité et qu'on ne peut pas décider comme ça, au nom des minorités, qu'on va donner des droits nouveaux à des toutes petites minorités au détriment de la majorité. Tout ça a créé une espèce d'énorme mouvement qui a porté Trump au pouvoir. Je ne crois pas que tout ça soit très désirable. Ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est qu'effectivement, cette dualité qui a remplacé le clivage gauche-droite, à mon avis, c'est bien dommage, mais peu importe, qui est progressisme contre populisme, et il est nourri un peu par les mêmes choses. Mais en France, la partie droite, la partie réaction est qualifiée de populisme un peu par mépris. Et je pense que la droite a raison de se positionner, elle a raison tactiquement, parce que je pense qu'elle a un espace politique, mais elle a raison aussi intellectuellement et moralement de vouloir préempter la réaction de tous ces gens qui pensent que le progressisme permanent de ceux qui s'opposent au populisme et qui se disent justement les forces de progrès, ils ont raison de vouloir capitaliser sur le refus de ce progressisme avant que ça fasse grossir suffisamment la boule populiste qui en France s'incarne dans l'Assemblée nationale pour qu'ils arrivent au pouvoir.
Au fond, une droite conservatrice, une droite qui s'assume comme telle, non populiste.
Libérale, conservatrice, traditionnelle, anti-progrès dans la nouvelle acception du progrès, c'est-à-dire droit des minorités porté en bandoulière, ostentatoire, permanent, sans limite. On aime ou on n'aime pas, c'est un autre sujet, mais je pense qu'il y a un espace politique et qu'il y a une légitimité intellectuelle et morale à dire « moi, je porte cette idée-là » et que c'est ça qui est en train de se nouer. Moi, je pense que Wauquiez, à qui je trouve pas que des qualités, ni au fond, ni tactique, a fait, à mon avis, une chose très maligne en portant cette espèce de trio en tête de la liste européenne, avec un Bellamy qui parle évidemment
Donc
à cette famille-là.
Qu'un seul d'ailleurs.
Non, mais les autres sont un peu là autour et donnent le sentiment que c'est pas seulement. C'est ça qui est malin, c'est que Bellamy évidemment c'est celui qui a le plus de valeur marchande pour Wauquiez, et c'est celui qu'on entend le plus. Mais il est un peu corrigé par les voix des autres, même si on les entend peu, parce qu'on va les entendre plus sans doute avec le temps. Il y a quelque chose qui est assez malin, me semble-t-il, et sans doute fécond, et je crois moi de salut public, parce qu'encore une fois, moi je suis pas confortable avec l'idée qu'on ait le choix entre le progressisme nouvelle mode et cette espèce de populisme qu'on voit monter qui n'a pas besoin de l'adjonction des tradis et des réactionnaires.
Au fond, voilà. Ce qu'on est en train de se dire ce dimanche, c'est que la politique française, en tout cas, reprend tranquillement ses droits. La droite se redéfinit comme s'assumant comme conservatiste. La gauche est heureuse de pouvoir relever...
Ça n'a pas que des inconvénients, si vous voulez mon avis.
Non, est en train de relever qu'il y a un volet social moins exploité par le macronisme qu'elle peut revendiquer comme lui appartenant en propre. Et finalement, le macronisme se redéfinit comme un centrisme de la vie politique française.
Oui, mais je pense que dans cette opposition binaire progressiste contre populiste, à un moment, il faut faire ce que dit très bien Chantal Mouffe dans son livre qui s'appelle « Pour un populisme de gauche », ben, il faut en fait revendiquer l'expression de populisme. Parce que ça veut dire quoi, au fond, dire progressiste contre populiste? C'est quoi le populisme? Ça veut dire que les gens qui s'adressent au peuple seraient forcément des démagogues. Les gens qui s'intéressent aux intérêts des classes populaires, et je ne dis pas qu'il y a un seul peuple, hein, mais voilà, il y a des classes populaires, etc. C'est les gens qui s'intéresseraient à eux, qui défendraient leurs intérêts, seraient nécessairement des démagogues? Non. Absolument pas. Cette vision-là du macronisme, au fond, c'est quoi? C'est une vision, les élites contre le peuple. Il y aurait des élites qui auraient les solutions, qui sauraient ce qui est bon pour le peuple. Et ça, c'est au niveau français, national, ou au niveau Alors, européen. C'est ça qui tue la politique.
Cette gauche qui veut justement reprendre à son compte ce terme de populisme, vous citiez Chantal Mouffe, c'est d'abord la gauche de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, il est assez proche de cet intellectuel-là qu'il cite assez souvent.
Il la cite,
est-ce
mais
que,
c'est pas
est-ce que
forcément
la gauche,
ça.
Est-ce que la gauche qui va se présenter aux européennes, qui est celle de Raphaël Glucksmann, est-ce que c'est la même?
Non, c'est pas la même, parce que d'abord, elle est beaucoup plus europhile, en quelque sorte. Hein, et puis, elle est beaucoup plus... Elle défend beaucoup plus, par exemple, les droits de l'homme, etc. Mais moi, je pense, par exemple, à cette formidable députée américaine. Parce que sur la question des minorités, je suis pas du tout d'accord avec Philippe Manière, mais c'est normal. Mais cette formidable députée américaine, Alexandra, surnommée AOC, qui a fait un discours remarquable cette semaine.
Elle
a fait un discours en disant quoi? Parce qu'elle avait des gens de droite en face d'elle, des républicains, qui disaient votre discours sur le changement climatique, en gros, on dirait en France, c'est un discours de bobo. C'est un discours élitiste. C'est pour les bobos, le changement climatique et l'environnement. Et elle a dit quoi? Elle a dit, non mais attendez, les enfants du Bronx, ce sont les premières victimes aujourd'hui du taux d'asthme infantile le plus élevé du pays. Ce sont les enfants les plus pauvres qui ont le taux de plomb le plus important dans le sang. Donc la réconciliation entre les questions environnementales et les questions sociales, elle est essentielle. Et c'est ça, au fond, la gauche, à mon avis, l'espace de la gauche à venir. Après, qui va le défendre le mieux, je ne sais pas au niveau français ou au niveau européen, mais en tout cas l'espace, il est là. C'est pas entre dire progressiste ou populiste. Emmanuel Macron, quand il a fait sa campagne en disant moi je suis le nouveau monde et je vais dégager tout le monde, on peut dire que c'était du populisme, on peut dire que c'est de la démagogie. Donc voilà, arrêtons avec cette opposition binaire qui infantilise le débat politique.
Comment on en est arrivé justement à ce qu'Aurélie Fipetti appelle cet affrontement binaire, à cette bipolarisation-là?
Parce qu'on est tombé dans le slogan. Pourquoi on est tombé dans le slogan? Parce que le débat d'idées s'est interrompu. Il s'est interrompu déjà depuis plusieurs décennies. Et là où je suis pas d'accord, c'est que le populisme, c'est pas un dérivé du mot populaire. Le populisme, c'est la disparition des médiations politiques. C'est-à-dire une crise de défiance à l'égard des institutions, une crise de défiance à l'égard des idéologies, des représentations du monde. Par parenthèse, cette élection européenne, elle est quand même extraordinaire. Personne ne présente un projet européen. Parce que on est en panne, justement, de vision du monde. Ce qui était extraordinairement dangereux dans cette conception, c'est qu'effectivement, l'électeur a le sentiment de ne pas pouvoir choisir entre des programmes et des visions. Donc, il va choisir en fonction d'un marketing, en fonction de figures, en fonction d'images. Et donc, le populisme... C'est encore une fois une forme de pathologie comme phénomène, c'est-à-dire c'est le symptôme d'un dérèglement d'institutions et de combats d'idées qui n'existent plus, ne se font plus. Donc il y a là...
Vous y avez même consacré un livre récemment, les néo-nationalistes, c'était exactement
c'est
le sujet.
C'est gentil de
Je vous en prie, c'est un petit cadeau du dimanche. Sylvie Kaufmann, vous n'aviez pas l'air d'accord avec Bertrand Badie sur l'idée que dans ces élections européennes, il n'y avait pas d'offre programmatique ou de vision de l'Europe qui se confrontait.
Je crois que vous disiez qu'il n'y avait pas de projet européen. On peut être d'accord ou pas avec celui qui est formulé, mais je pense qu'Emmanuel Macron offre un projet européen. Il y a une vision.
Le projet
après,
d'un projet.
Après, on peut le critiquer, bien évidemment, et on peut voter contre et on peut ne pas être d'accord. Mais je crois que pour l'instant, il y a quand même un projet, là, en l'occurrence. Je voulais revenir sur la question du populisme. Est-ce que disait Aurélie Fipetti, c'est vrai que Il y a aussi une composante du populisme qui maintenant est intégrée, et heureusement d'une certaine manière, qui est positive, qui est intégrée dans plusieurs programmes politiques. C'est-à-dire, il y a des dans les pays où les populistes, si on peut les appeler comme ça, puisque eux-mêmes ne s'appellent pas comme ça, sont au pouvoir, il y a des choses qui ont été reconnues comme positives. Je prends par exemple le cas de la Pologne. Il y a des programmes sociaux qui ont été mis en œuvre en Pologne, notamment des programmes très agressifs d'allocation familiale, qui ont fait monter le pouvoir d'achat et qui ont eu des effets positifs sur l'économie et évidemment sur le niveau de vie des gens et des familles. Il y a des partis progressistes, dont un qui vient de se créer récemment, qui s'appelle Printemps, qui se considère comme, je dirais, dans une classification ancienne de centre-gauche et qui intègre ces programmes d'allocation familiale ou de soutien social, d'allocation sociale, que l'on considère en fait dans d'autres pays comme populistes. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Et je crois que l'irruption des gilets jaunes en France a aussi porté un coup assez fort à ce clivage populiste progressiste, parce que il a fait émerger aussi cette exigence de justice sociale dont la gauche reconnaissait elle-même qu'elle n'avait pas été satisfaite dans ses programmes précédents. Donc, c'est vrai que on voit bien que dans les revendications populistes, il n'y a pas finalement que des choses négatives.
Pour terminer, Philippe Manière et Aurélie Filippetti, quels sont les deux thèmes majeurs au fond que finalement le macronisme aura laissé, et pour cette droite à laquelle vous appartenez, Philippe Manière, et pour cette gauche à laquelle vous appartenez, Aurélie Filippetti?
Enfin, moi, j'ai voté autant à gauche qu'à droite dans ma vie, je me sens pas du tout particulièrement de droite, hein, je vous assure. Hein. Non, moi je suis libéral, ça je l'assume, mais je pense que selon les cas, ça fait tomber à gauche ou à droite. Je ne sais pas s'il y a des thèmes qui apparaissent dans cette campagne. Je suis d'accord avec Sylvie sur le fait que le projet de Macron, on ne peut pas lui dénier la réalité de l'existence. Je pense que là où il a des limites, c'est qu'il est complètement irénique et absolument irréalisable. C'est-à-dire qu'il est inconcevable que nos partenaires puissent, à un moment ou à un autre, s'aligner sur ce projet. Donc c'est un projet qui a vocation exclusivement nationale, ce qui est quand même un peu paradoxal pour un projet européen. On ne peut pas imaginer un instant que ce que propose Emmanuel Macron advienne. C'est quand même une petite contrariété pour un homme politique qui vient proposer qu'on le soutienne en mettant un programme sur la table. Moi, si on revient quand même un tout petit peu à ce qu'on évoquait à l'instant, et je suis complètement d'accord avec Aurélie sur le fait que des figures comme la fameuse AOC, ils sont remarquables, orateurs merveilleux, enfin, fille qui en plus ne sort pas de la cuisse de Jupiter. Ça donne vraiment de l'espoir dans la politique. Moi, je suis rarement en accord avec elle sur tout, mais je suis très impressionné par sa puissance oratoire. C'est quand même un renouveau extraordinaire. Mais ce qu'on voit là, et ce qu'on voit également dans ce que disait Sylvie sur l'intégration de programmes, sociaux qui seraient connotés théoriquement de droite dans des visions de gauche. C'est quand même le retour, la prise en compte de ce que dit le populisme et le retour à un clivage gauche-droite. Parce que AOC, ce qu'elle dit aussi, et moi je serais d'accord avec elle aux États-Unis, c'est qu'il faut augmenter considérablement les impôts sur les riches. Je suis en désaccord avec cette analyse en France, mais je pense qu'aux États-Unis, elle est absolument frappée au coin du bon sens, pour la raison simple qu'aux États-Unis, les impôts sont très faibles, c'est pas le cas en France.
Et laissez 30 secondes de conclusion à Aurélie Filippetti. C'est le grand retour du clivage droite-gauche.
Eh bien oui, moi je pense que la question laissée en plan, c'est la question des inégalités. C'est une question majeure et ce que dit AOC aux États-Unis, c'est aussi ça. Et puis évidemment, une politique très volontariste aussi sur les questions écologiques.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été nos visiteurs du dimanche. Merci à Marine Beccarelli qui a préparé avec moi cette émission, à Luc Jeanrenaud qui l'a réalisée, à la technique aujourd'hui, Cédric Châtelus. À suivre bien sûr, et comme tous les dimanches, Les Bonnes Choses de Caroline Brouet qui nous raconte aujourd'hui l'histoire du restaurant français en compagnie d'Antoine Debecq, un stimulant déjeuner du dimanche. L'Esprit Public revient la semaine prochaine, évidemment 11h. Bonne semaine à tous.